Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, il est 11h. Dans le cadre du Festival des Correspondances qui démarre aujourd'hui, nous recevons François Malabave et ses invités. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Et oui, dans une poignée d'heures, le 21e Festival des Correspondances La Poste sera inauguré officiellement et comme chaque année, Fréquence Mistral fait entendre sa petite musique littéraire durant l'événement tous les jours. Nous serons en direct à 11h comme maintenant pour évoquer les correspondances avec des invités, des interviews et des reportages pour rendre compte, mais aussi pour vous donner envie de vous joindre au beau chambardement et bien sûr de lire les ouvrages des écrivains invités. Et pour cette première émission avant le rush des auteurs, les jours prochains, c'est la tradition, nous recevons le directeur du festival, Olivier Chaudançon, pour parler de 5 journées exceptionnelles. En plateau également, Philippe Laliard du Bégat Théâtre, qui propose des voyages immobiles sur les places de Manosque avec des textes rédigés par des belles plumes. Et nous avons de la chance, nous en avons une aujourd'hui, Sandra Rinflet est parmi nous. À tout à l'heure, nous entendrons aussi le photographe Bernard Plossu, qui sera présent à 15h à la Fondation Carzou pour évoquer son exposition en entre USA et Mexique, dont ce sont les derniers jours. Et puis nous parlerons aussi de l'association Empreinte des graveurs et graveuses qui ouvre leur atelier durant le festival rue des Marchands à Manosque. Leur présidente Isbé est notre invitée, tout comme quelqu'un dont vous connaissez bien la voix, notre ami James Fontaine, célèbre demain un texte surprenant d'Henry Miller. Il nous donnera les raisons de son choix. Vous êtes bien sur Fréquence Mistral. Bienvenue à Manosque. Et on démarre tout de suite cette émission, comme de tradition, avec Olivier Chaudançon. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Le directeur des correspondances de Manosque, 21e édition déjà.
Oui, on se le dit chaque année en fait.
L'année dernière, c'était le bel âge. Ouais. Et cette année, on dépasse le bel âge, vous rendez compte?
Oui, enfin, on est censé ouvrir une période qui est pas mal.
Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Fini l'adolescence. Olivier, cette manifestation s'annonce bien?
Très bien, très bien. A priori, tout le monde sera là, il doit faire beau, les gens ont l'air impatients que ça démarre, donc tout va bien.
Les écritoires sont installés dans la ville, les partenaires sont prêts, les bénévoles aussi.
J'ai fait un tour, j'ai l'impression que tout se met en ordre, voilà, il faut vraiment que ça démarre, on est tous impatients.
17h, c'est l'inauguration officielle, les discours bien sûr, hein, on est obligé d'y passer par là. Et puis 18h, Sylvain Tesson, c'est ça aujourd'hui, hein.
Voilà, la rencontre d'ouverture. Ça faisait quelques années qu'on avait envie de l'inviter, ça a failli se faire l'année dernière et puis on sait que c'est un grand voyageur et avant le bouclage du programme il nous a dit un peu embêté qu'il avait l'opportunité d'avoir un voyage en Syrie, donc on a compris que ça puisse passer avant d'autres engagements, mais cette année il est là, voilà, donc on démarre avec lui et en avant-première d'ailleurs parce que c'est autour de son livre Apparaître, La Panthère des Neiges. Je crois qu'il sort vers le 10 octobre et je remercie les éditions Gallimard parce qu'ils ont rendu le livre possible et présent à Manosque en avant-première mondiale.
C'est vrai qu'on a pas mal de chance à ce niveau-là et puis il y a des auteurs et des écrivains de talent qui viennent ici et qui parfois sont couronnés d'un Goncourt, d'un Renaudot, enfin bref, c'est une belle opération et en même temps ça veut dire que vous avez le nez creux avec votre équipe, Olivier.
En tout cas, on lit, donc c'est déjà un avantage sur ceux qui ne lisent pas dans les programmations de festivals. Bon, j'arrête de faire du mauvais esprit. Oui, on est aux aguets, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est ça qui tend le festival, c'est trouver des textes forts, singuliers, nouveaux, etc., etc., et être dans une volonté de renouvellement constant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fidélités aussi avec des auteurs qui reviennent, mais c'est vrai que cette année, c'est frappant, je fais toujours un petit peu le compte, et je vois que sur les 50 auteurs présents, il y en a plus de la moitié qui ne sont jamais venus à Manosque, donc ça veut dire qu'on ne s'enferme pas dans une routine qui pourrait être confortable mais un petit peu immobile.
On va continuer à découvrir donc.
Voilà, et puis j'ai fait le compte, on a 8 auteurs de premier roman, donc par définition pour la première fois à Manosque, et puis une nouvelle génération qui arrive, voilà, sans pour autant chasser une partie de l'autre qu'on aime bien.
L'autre temps fort aujourd'hui, c'est un temps fort, si vous me permettez l'expression, qui va saigner, hein.
Oui, alors je comptais le faire, donc ça me retire.
Oh, dommage, pardon Olivier.
Donc maintenant, il faut que je sois plus explicite. La première grande soirée de lecture musicale en l'occurrence, c'est autour de Dracula. C'est Jacques Bonnaffé qui nous a proposé ce projet-là en nous rappelant que c'était un roman épistolaire, ou en tout cas en partie épistolaire. Il a eu envie de travailler à nouveau avec Théo Acola, qu'on lui avait présenté il y a quelques années lorsqu'il est venu lire Kerouac. Voilà, donc on va avoir une soirée assez étonnante, parce que Dracula, tout le monde connaît grosso modo l'histoire, tout le monde a l'impression d'avoir lu le livre, tout le monde a vu quelques images d'un des films, mais au fond, très peu connaissent dans le détail et avec une mémoire immédiate ce texte-là. Voilà, donc on va le parcourir ce soir.
C'est à 21h au Théâtre Jean Lebleu, et puis ce sera suivi de beaucoup d'autres manifestations pendant la semaine. Évidemment, nous allons les annoncer ici même. On peut vous demander, Olivier, éventuellement, c'est toujours un exercice difficile, quelques coups de cœur sur ces à la fois les auteurs ou les spectacles qui sont proposés.
Dans les spectacles, je vais poursuivre avec celui qui se tiendra demain soir, parce que c'est une histoire un petit peu particulière. Ce sont des lettres de prison, en quelque sorte. Ahmet Altan, écrivain, journaliste turc, actuellement en prison, condamné à perpétuité. Après, là, il y a eu un rebondissement judiciaire. Il ne serait plus condamné à perpétuité, mais il n'est pas du tout question de le faire sortir de prison. Enfin bon,
on reste très sceptique là-dessus.
Oui, bah, tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher la pression. Ce texte est d'une beauté incroyable. Ça s'appelle « Je ne reverrai plus le monde ». Et ça raconte d'abord l'arrestation de cet écrivain qui s'y attendait un petit peu. Et un jour, à 6h du matin, comme prévu, mais voilà, ça fait quand même bizarre, ça sonne et c'est vraiment la police qui vient l'arrêter. Et puis ça démarre sur cette scène assez terrifiante, où il est dans la voiture de police, et puis quand même, par humanité, les policiers lui proposent une cigarette. Et là, il prend un temps de réflexion et dit « Non, je ne fume que lorsque je suis tendu ». Et ça va être l'espèce de leitmotiv où, en gros, il nous raconte, parce que ce sont des lettres vraiment qui nous viennent de prison, à quel point il se laisse pas faire mentalement. Il va jusqu'à dire « Je ne me suis jamais réveillé en prison », parce qu'il est vraiment dans une sorte de volonté de se sauver par la pensée, par l'écriture et par la littérature. Et donc, c'est d'une force indéniable. Et de surcroît, ce sera porté par un comédien formidable qui s'appelle Nicolas Bouchaud. Voilà, donc je vous incite vraiment à écouter ça.
On peut rajouter aussi qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'opinion internationale, si tant est que ça veut dire quelque chose. Nos amis, par exemple, d'Amnesty International seront tous présents pour cette soirée. Évidemment, ça les concerne directement. Ahmet Altan est enfermé depuis 4 ans déjà.
Oui, à peu près. Et puis ça nous rappelle aussi le souvenir de ce qui s'est passé avec Asli Erdogan, qui a fini par sortir, mais enfin il y en a un qui sort, un autre qui rentre, et voilà. Alors je sais pas si ça change quelque chose de la mobilisation,
Bonne Erdogan, hein, c'est Asli.
Erdogan, j'ai cru comprendre que c'était un nom assez commun, voilà. Donc c'est vrai que c'est rare de se faire emprisonner par quelqu'un qui porte son nom, mais enfin bon, voilà, ne perdons pas les gens.
Donc attention, c'est donc évidemment le leader de la Turquie actuelle, Erdogan, qui a enfermé Ahmet Altan et qui n'a pas de lien de parenté avec Asli Erdogan, qui est une écrivaine de grand talent. Olivier, d'autres coups de cœur éventuellement, ou des spectacles?
Je vais le prendre dans le désordre. J'ai envie de parler de quelques auteurs de premiers romans.
Allez-y.
Parce que c'est vraiment une très belle année pour ça. Alors j'ai dit qu'il y en avait 8, je vais pas parler des 8, mais mettons à les 3. Victor Gestin, qui a écrit La Chaleur, un livre sidérant, puisque ça commence dans un camping avec un ado qui s'est un petit peu retiré des festivités, et puis il est à côté de balançoire, il voit qu'un autre ado qui a commencé à jouer, à s'entortiller dans les cordes, et au lieu d'aller l'aider, il observe. Jusqu'au moment où, apparemment, celui qui est dans la balançoire étranglé est vraiment étranglé et mort. Et deuxième acte absurde et troublant, il prend le corps, il va l'enterrer. Et puis, ça, je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est assez sidérant comme livre, comme roman, comme premier roman. Et puis deux autres que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi les autres. Hein, je prends mes précautions, mais c'est vrai, c'est sincère. J'aime beaucoup Anne Poli. Je vous laisserai le découvrir dans la programmation. Et puis Mathilde Forget, À la demande d'un tiers. Et je peux même donner un tout petit scoop, c'est qu'à la suite de Blandine Rinkel, qui est en résidence ici jusqu'à la fin du festival, ce sera la saison prochaine Mathilde Forget qui viendra en résidence à Manosque.
Donc à la demande d'un tiers particulier qui s'appelle Les Correspondances, et aussi, cette fois-ci elle sera, et c'est pas un drame, ce sera tout simplement pour une résidence ici à Manosque. C'est une belle chose, et c'est un des romans que j'ai pu lire, Olivier, et que j'ai apprécié aussi. Bon. De mon côté, vous savez que je fais un effort chaque année en essayant de lire le maximum de romans, et cette année, je dois dire que le choix est difficile parce qu'il y a énormément d'écrivains de talent, et bon, et je ne vais pas en dire plus sur mes lectures quand même. Olivier, les spectacles.
Alors je pourrais parler d'un spectacle parce qu'il est d'une drôlerie absolue, mais c'est pas toujours facile de trouver ça en littérature, en bonne littérature. Ça repose sur l'association d'un écrivain, Philippe Jaénada, que l'on connaît ici, et d'une chanteuse, Émilie Loiseau. Et ils ont fait une sorte de jeu d'écho entre des extraits de textes de Philippe Jaénada, des chansons d'Émilie Loiseau. Et ceux qui ont déjà lu Philippe Jaénada connaissent son art de la digression, qui nous emmène vers des moments indescriptibles de drôlerie. Et voilà, je pense que personne ne peut résister à cet humour-là. Ça se passera vendredi soir en deuxième partie de soirée.
Avec en plus Émilie Loiseau qui était dans notre département il n'y a pas si longtemps que ça pour tourner un clip à Saint-Michel-l'Observatoire, un clip à caractère écologique à propos de Coquelicot. Donc on la reverra avec grand plaisir à ce niveau-là.
Mais elle connaît bien le département. Elle m'a confié que son père avait vécu à Longomaille. Voilà, donc au-dessus de Manosque.
Elle a effectivement des attaches avec les Alpes de Haute-Provence. Olivier, il y a aussi, sauf si vous avez d'autres spectacles.
Non, mais j'en ai plein. À ce moment-là, je prends le programme et je dis tout.
Oui, on va vous laisser alors. il y a quand même des grandes plumes qui viennent ici. Par exemple, je pense à Jonathan Coe, je pense à Mazarine Pinjot, qui sera aussi à Bannon chez nos amis Marc et Isabelle Gaucheran au Bleuet. Comment vous faites pour avoir, vous, des écrivains de talent comme ça, les attirer dans une petite ville, c'est vrai, qui est connue par un autre écrivain, mais qui nous a quittés voilà 50 ans, Jean Giono. C'est un appelant, Jean Giono, pour faire venir Mazarine Pinjot, par exemple, à Manosque.
Alors, la figure de Jean Giono est évidemment quelque chose de très précieux pour la ville, et ça lui confère une aura littéraire. Après, il n'y a pas de relation directe avec la programmation du festival. Si, on aime faire des clins d'œil. On reçoit cette année Emmanuel Lambert, qui a écrit un formidable livre qui s'appelle Giono Furioso. Je le cite au passage, mais il faudra y revenir.
Elle sera ici en direct vendredi, donc on aura l'occasion avec Jacques Ménie et Clémentine Mélois de parler de cette action et de l'exposition du MUCEM également.
Bon, très bien, très bien. Mais inviter les auteurs contemporains à Manosque, eh bien c'est l'histoire des correspondances, c'est-à-dire un festival qui a grandi petit à petit. Les auteurs ont vu qu'on ne les invitait pas par hasard, pas sur un nom ou sur une position ou sur un présupposé, mais parce que vraiment on avait lu leur ouvrage et on avait à cœur de le partager. Au fil des ans, ça s'est su également qu'ils étaient bien accueillis, mais pas au sens festival de Cannes, simplement accueilli avec attention, et puis surtout qu'il y avait en face d'eux un public abondant, un public qui a envie de découvrir. Voilà, donc ce sont les éléments principaux qui nous permettent de convaincre les auteurs de venir, et puis c'est vrai qu'au fil des ans, c'est devenu un peu, alors ça me gêne toujours un peu de le dire, mais enfin je le dis quand même, le festival dans lequel les auteurs qui publient à leur entrée ont envie d'être invités, parce que c'est un signe positif de ce qui va se passer pour leurs livres. Je ne dis pas qu'on fait la vie des livres, faut pas exagérer, mais voilà, ils viennent dans un endroit où on va les écouter, vraiment.
Avec un exercice particulier quand même d'être cuisiné, entre guillemets, sur scène par un lecteur assidu, voire un journaliste et un spécialiste des lettres, devant 300, 400 personnes qui vont poser des questions aussi. Ils peuvent être mal à l'aise, et il y a eu des écrivains mal à l'aise sur scène à Manosque.
Je précise déjà qu'ils sont cuisinés avec bienveillance.
Bien sûr.
Il s'agit de créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer le mieux et aller au plus profond du livre. Après, c'est vrai que les écrivains, certains sont très doués pour parler du livre et d'autres sont presque dans la position de « mais j'ai tout dit dans le livre, j'ai rien à ajouter ». Alors à cela, on fait d'autres propositions. Par exemple, plutôt que d'en parler, on peut le lire aussi, le livre. C'est ça qui est intéressant dans ces festivals. Celui qui n'aime pas parler peut venir le lire. Et puis s'il a envie d'inventer quelque chose avec un musicien, avec un vidéaste, il peut le faire. C'est aussi cette liberté. On vous donne la parole, réfléchissons ensemble sur de quelle façon vous voulez prendre la parole. Voilà.
Il y a autre chose, Olivier, dans ce festival, et qui est né il y a quelques années déjà, à peine. C'est le festival off, c'est-à-dire un peu comme à Avignon ou à d'autres endroits. Toute une dynamique s'est créée autour des correspondances, mais qu'on peut pas intégrer évidemment à un gros festival, avec des partenaires, avec des acteurs qui s'agitent, entre guillemets, sur Manosque régulièrement, et qui s'associent à ce festival ou d'autres opérations qui viennent simplement participer à la fête. C'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose, on l'encourage et on le canalise, je dirais, on l'encourage parce que évidemment que le festival proprement dit ne peut pas tout porter, doit garder une ligne, choisir des auteurs sur la base de textes, etc., plutôt des auteurs de la rentrée littéraire, faire des grandes lectures, des concerts littéraires, donc on a l'architecture du festival, mais après, on a bien vu, et c'est bon signe, que ça faisait émerger plein d'envies et d'initiatives à Manosque, donc on veut pas les laisser de côté, donc on a repris une formule qui existe ailleurs, c'est porter ces initiatives-là en les ordonnant, c'est-à-dire qu'on choisit aussi pour que ça reste dans le sujet, mais en les mettant en lumière aussi par le biais du programme qui héberge ces propositions, voilà, pour faire cohabiter des propositions de nature différente avec également des initiatives amateurs, des choses un peu plus éloignées de la thématique, mais qui malgré tout nourrissent cette question du rapport au texte, à la lecture, à l'écriture que nous avons envie de célébrer pendant 5 jours.
Nous allons parler tout à l'heure avec James Fontaine qui va dans une librairie extraordinaire à Manosque qui s'appelle Au goût du livre et qui est menée par Manu qui est un personnage assez extraordinaire, un personnage de roman quasiment. Et donc on va en parler avec lui parce que cette dynamique elle est réelle et elle peut s'allonger après les correspondances et voir, comme c'est le cas avec Manu, durer 365 jours par an, ce qui est un bonheur pour certains manosquins. Je dis pas tous, mais certains manosquins. Voilà, vous m'avez compris. Olivier, vous restez avec nous. Hein, on va passer la parole à quelqu'un qu'on aime bien et surtout, il représente une troupe qu'on aime bien ici même, qui est déjà intervenu plusieurs fois dans le cadre des correspondances. C'est Philippe du Béga Théâtre. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On peut rappeler en quelques mots ce qu'est le Béga Théâtre qui est à Gréoux-les-Bains.
On est basé dans la forêt à côté, voilà, de Gréoux-les-Bains, à 5 km du village, un lieu où on accueille des compagnies en résidence et des stages. On aime bien travailler là-bas, mais notre espace de travail est plutôt dans l'espace public. Voilà, on aime bien faire nos spectacles en rue ou dans une école. Et voilà, donc ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est dans la région.
Avec toujours des projets complètement fou, Philippe, comme celui que vous avez mis en musique là.
Alors qu'on a mis en musique. Alors c'est pas un projet qui est parti de notre idée. On a été demandé. On nous a proposé le centre Jean Giono pour l'anniversaire du cinquantenaire de la mort de Giono nous a fait une commande qui nous a bien plu, qui correspondait bien avec notre manière de travailler. Et donc voilà, on a invité 12 écrivains qui ont tiré au sort un lieu dans lequel, après un protocole, après une écoute et une lecture d'un petit livret, ont une heure pour écrire un texte. Et ce sera des textes qui ont été mis en scène, mis en voix avec des comédiens de la région, et mise en musique par Christophe Modica, et qu'on va pouvoir, pendant les correspondances, un petit peu différemment qu'on va le faire par la suite, mais on sera dans plusieurs lieux pour prêter un système audio, et les gens viendront dans ces lieux, spécialement à Manosque, il y a d'autres lieux, il y a Gréoux-les-Bains, il y a Quinçon,
et
Volx, merci, pour écouter ces textes, voilà.
Alors, ces lieux, justement, ils sont emblématiques à Manosque, parce que, évidemment, les manosquins les connaissent par cœur et les fréquentent quotidiennement, la porte Soubéran, la place de l'Hôtel de Ville, la place Marcel Pagnol, ou bien la place du Caragou, le paraïs, pour certains manosquins, pas tous, la maison de Jean Giono, enfin bref. Et puis, à Volx et ailleurs, il y a, par exemple, la devanture, le parvis de l'écomusée de l'Olivier, à Gréoux-les-Bains, la médiathèque Lucien-Jacques, et ce parc magnifique, et à Quinçon, bien sûr, le musée de préhistoire, Norman Foster, qui a sévi dans nos parages. Ce sont des lieux que vous avez choisis, ou comment ça s'est passé, ce choix des topographiques, c'est ça, peut-être, enfin, je sais plus.
Topographiques, avec leur histoire, avec leur intérêt, avec leur point de vue, oui, ce sont des lieux qu'on a choisis, que Karine Holmström, qui a dirigé le projet, a choisi, avec des propositions du centre Giono. Et donc, comme je disais, les écrivains ne l'ont pas choisi, l'ont tiré au sort. On les a amenés, ils sont arrivés parcimonie durant les 2 mois, 3 mois, petit à petit. On a eu la chance d'avoir Sandra Rinflet qui est venue, qui elle est partie à Gréoux-les-Bains.
Elle va nous en parler dans un
instant.
Elle va
nous en parler un petit peu, j'espère, ouais.
Mais il y avait, par exemple, je sais qu'il y a un écrivain manosquin qui souhaitait avoir la place de l'Hôtel de Ville. Pas de bol, il n'est pas tombé là-dessus, qui connaissait très bien. Il aurait eu un bilan carbone vraiment très, très faible à ce niveau-là. Mais bon, c'est une bonne chose. Et puis on l'aura très, très prochainement en plateau, René Frény. Il nous parlera peut-être aussi de cette expérience particulière. Il y a aussi des écrivains qu'on connaît bien, Julien Delmer, François Bonne, des gens qui sont déjà venus et qui vivent à Manosque aussi, comme par exemple Sonia Chiambretto. Ils sont malléables, ces écrivains, Philippe ?
Alors, ils sont malléables. Je pense que le fait de tirer au sort et d'avoir ce protocole à lire, je pense que ça les a mis dans un état qui leur a plu, qui leur a donné du piment. Et,
c'est excitant.
Et ils se sont portés au jeu. Donc, malléable, on peut dire oui, ouais. À ce moment-là, oui.
Donc ça peut être intéressant. Dans ce protocole, j'ai vu la présentation de votre affaire, c'était hier au centre Giono à Manosque. Il y a un côté un peu particulier qui m'a fait penser, moi, à une série que tout le monde connaît, Drôle de Dame, où on découvre, on ouvre une enveloppe et on a une mission tout d'un coup, et il faut aller à tel endroit et puis s'asseoir sur un banc et observer et puis écrire. Bon, dans Drôle de Dame, on n'écrit pas, mais enfin, il y a un peu cette dynamique. Et ils ont joué le jeu, donc.
Ils ont joué le jeu. Moi, on ne pensait pas du tout à Drôle de Dame en écrivant le protocole. Ils ont joué le jeu. Les trois textes, les deux premiers textes sont un petit peu pour mettre en bouche, pour mettre en condition l'écrivain qui va écrire son texte final sur lequel on va se baser, on va s'appuyer, et on va mettre en scène l'intégralité du texte, du troisième texte. Et si on a besoin, on allait piocher dans les deux premiers petits textes.
Alors, assez parlé, Philippe. On va écouter justement une partie de ce travail et puis on accueillera Sandra Rinflet. C'est justement la partie qu'elle a écrite et qu'elle a conçue avec vos instructions particulières devant la médiathèque Lucien-Jacques à Gréoux-les-Bains. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour et bienvenue dans ce voyage immobile. Une création de Picard Théâtre sur une proposition du Centre Jean Giono. Réglez votre volume d'écoute de façon à m'entendre correctement, même si je vous parle très bas. Tendez l'oreille. Vous allez entendre une pie qui jacasse sur votre gauche, puis le cloche de l'église à droite, et des pas sur la chaussée. Voilà, vous êtes prêts pour voyager. Vous êtes dans le parc devant la médiathèque, à Gréoux-les-Bains. Voyage immobile numéro 11. Ni vu, ni connu, de Sandra Rinflet. Création sonore, Christophe Modica.
Un banc au bout d'un serpentin. Un chemin en S qui mène à une maison rose. Une maison rose qui s'appelle Jacques. Dedans, des histoires, des livres. Dehors, des histoires, des feuilles. Quelques mortes, réchappées de l'hiver. D'autres en bourgeon, promesses printanières. Le son de la route derrière et de travaux au loin. Quelqu'un seul sur le serpentin. Pour un 5 mars, il fait chaud, mais elle est emmitouflée. Elle est entrée par la porte arrière du parc, sans bruit, et m'a fait sursauter. Les cailloux n'ont craqué sous ses pieds qu'à ma hauteur. Faut dire qu'elle paraît légère, fine et courbée comme une brindille sous le vent. Elle regarde droit devant, c'est-à-dire vers le sol. Elle l'ausculte, elle le jauge pour qu'il ne la prenne pas par surprise, qu'il ne lui prenne pas une cheville ou un fémur comme l'hiver dernier. Il avait mis 6 mois à se réparer.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral. C'était un extrait de Ni vu ni connu, un texte de Sandra Rinflet, écrit dans le cadre de ces voyages immobiles qui sont proposés par le Béga de Théâtre, des fictions sonores. Et on a de la chance, Sandra Rinflet est à nos côtés. Bonjour Sandra.
Bonjour François.
Vous êtes une artiste, on va dire, multicarte, photographe, chanteuse, voyageuse, écrivaine. Et si vous avez accepté de participer à cette aventure un peu particulière, pour quelle raison?
Parce que j'adore jouer, que j'aimais beaucoup le côté ludique et impromptu du processus, c'est-à-dire qu'on arrivait en sachant pas où on allait écrire, en sachant pas sur quoi on allait écrire. Et moi j'adore l'aventure, et l'aventure c'est à la fois un voyage au bout du monde, mais aussi un voyage au bout de Manosque. J'étais jamais allée.
Donc c'est à Gréoux-les-Bains là en fait, et en plus dans un endroit mythique, c'est cette fameuse Villa Olivia avec cette maison rose comme vous dites, et qui abrite un endroit qui est dédié à Lucien Jacques, la médiathèque Lucien Jacques, un lieu d'intelligence et de subtilité, de poésie et d'art. Donc c'est un endroit qui vous a inspiré?
Ben oui, beaucoup. On était en mars, donc c'était un peu une intersaison, il n'y avait personne, c'était un jour de semaine. Sauf des petites grand-mères qui venaient à un cours d'informatique. Et j'ai trouvé ça fascinant, j'ai capté des petites bribes de leur conversation. Elles répétaient, clic droit, fenêtre. Et y avait une sorte d'effervescence presque adolescente à les voir. Et du coup, j'ai écrit l'histoire de cette grand-mère qui est un peu à côté de ça, un peu spectatrice de ce qui se joue dans les grands espaces virtuels.
Votre texte a été le point de départ de cette mise en onde particulière du Béga de Théâtre. Vous l'avez écouté tout à l'heure, Sandra, pour la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez avec les illustrations sonores qui sont autour?
Bah, c'est fascinant parce que ça nous appartient plus. Je reconnais des choses, bien sûr, mais c'est une interprétation. C'est vraiment une interprétation de notre idée, de notre élan premier.
Avec des comédiens qui lisent votre texte. On l'a entendu au début, Karine qui lisait un extrait. Ce sont des gens qui traduisent, selon vous, et qui prolongent un petit peu vos sentiments?
Oui, et puis ils le modifient aussi, parce que nous, donc on a des consignes. Si vous avez compris un peu la procédure, on arrive dans le lieu qu'on a tiré au sort, on a une heure presque chrono, hein. On met un casque sur les oreilles et là on a des consignes très limitées dans le temps. Donc on a 10 minutes pour écrire sur quelque chose, ensuite 15 pour écrire autre chose avec un nombre de lignes précisées. Et ensuite on livre le carnet tel quel. Et à partir de ça, les comédiens font un peu leur travail, c'est-à-dire de réinterprétation, de reconstruction, ils enlèvent des parties. Et donc c'est un autre montage qui forcément est aussi un autre sens. C'est comme s'il y avait plusieurs auteurs au fond. Nous, on donne la matière première et ensuite il y a quelqu'un qui sculpte cette matière pour en faire un autre objet.
Avec également la possibilité de dessiner. Je sais que vous dessinez fort bien.
Vous êtes vraiment sympa.
Donc il y a eu un dessin pris sur place, c'est ça?
Oui, en fait, je crois que c'était la cinquième consigne, un petit peu le côté optionnel. On dessinait le lieu dans lequel on était, puisqu'on choisissait notre espace, notre angle de vue quelque part. Et ensuite, on nous a demandé d'en faire un petit dessin. Et il y avait vraiment ce travail acceptation de l'échec aussi, parce que c'est très limité donc dans le temps, pour le dessin, mais pour le texte aussi. Et je crois que ça fait partie aussi du processus, ce lâcher prise. Souvent, quand on est auteur, on est un peu perfectionniste. On revient beaucoup sur les mots, sur les constructions de phrases. Là, il y a vraiment l'acceptation de « c'est ce que j'ai écrit à ce moment-là, dans ce temps-là, et je le livre tel quel avec toutes les faiblesses aussi qui font le charme peut-être de ce travail. » Et on avait le choix à la fin de laisser le carnet tout de suite ou de réécrire un peu le texte chez nous et de l'envoyer dans les jours qui suivaient au théâtre. Moi, j'ai fait le choix de le donner tout de suite, même si à la relecture, je me dis, ça peut-être, j'aurais pu l'écrire autrement. Mais...
Non, mais c'était bien, c'est l'impulsion, donc. C'est un côté ludique, évidemment, mais en même temps, vous êtes aussi quelque part un auteur sous contrainte dans cette affaire.
Oui, bah, c'est mon sujet de travail, donc ça m'intéresse. Hein. Moi, je voyage beaucoup dans des pays où l'art est contraint au niveau macro, c'est-à-dire où il est très difficile de créer parce qu'il y a des censures religieuses ou politiques. Donc ça, c'était vraiment une petite contrainte.
Là, c'était
contrainte.
Pas une censure religieuse et politique,
non,
attention.
Non, c'était une contrainte joyeuse. Hein,
oui, voilà.
une contrainte inspirante même, parce que quand on est face à sa feuille blanche, la peur de la feuille blanche que connaissent tous les auteurs, autrices, on l'a beaucoup moins quand on est aussi guidé. C'est plus facile, au fond. Hein. La contrainte, dans ces cas-là, c'est vraiment
quasiment
un moteur.
Quasiment une commande.
Oui, et puis ça donne une inspiration. Comme on a très peu de temps, ça nous permet de partir tout de suite dans une direction. Et c'est en fait une béquille. C'est quelque chose qui aide beaucoup.
Philippe, parmi tous ces écrivains que vous avez reçus, là, une douzaine d'écrivains, donc c'est bien, ça fait un beau pack d'écrivains, vous avez découvert des personnalités ou redécouvert des personnalités ?
Alors moi oui, parce que moi j'avais pas lu grand chose parmi ces 12 écrivains, Karine était à fond et elle avait épluché et lu ces 12 écrivains, donc oui moi j'ai... Même René Frénic, j'avais pas. Si, je connaissais, j'avais lu des choses, mais j'étais content de François Beaune, oui, il était ici. Sonia, moi j'ai découvert Sonia Ciampetro.
Sonia Ciampetro. Ouais,
Ciampetro,
oui.
Donc. Fren Nefché a travaillé avec nous avant, a travaillé avec des étudiants, on travaille beaucoup à l'école Jean Giono, avec les SECPA, et lui, je sais son dynamisme avec les publics, avec ces publics-là. Je peux vous en parler.
Julien Delmer était en résidence à Manosque, on le connaît bien. Karim Kattan, personnellement, je ne connais pas, mais j'aimerais bien découvrir. Et puis Régis de Samorera aussi. Blandine Riquel est en train de finir sa résidence ici à Manosque. Et puis, qui reste encore Fabien Arca. Fanny Taillandier, bien sûr. Ouais. Et puis Carole Zellberg. Bref, c'est une sacrée équipe que vous aviez là. Hein. Comment vous avez fait les montages sonores par rapport à leur travail Philippe?
Alors il y a des textes qui nous donnaient tout, qui nous donnaient ou vraiment beaucoup de choses. Il y a des textes sur lesquels il a fallu imaginer, broder. Les montages sonores ont été faits à la base et sur le lieu dans lequel ils ont écrit. Donc ça c'est très important. Tous les sons viennent, n'ont pas été rapportés, ont été pris.
On entend les vieilles dames qui font
place.
De l'informatique. Alors Agréou.
On entend les vieilles...
Presque. C'était pas le même jour. Donc elle reste pas en fixe dans le parc quand même, je crois.
Mais tous les sons qui ont été ponctionnés sont dans les lieux. Christophe Monica a énormément d'inspiration pour aller chercher et il est très très pointilleux sur l'enregistrement des textes. Les comédiens...
C'est l'ingénieur du son qui s'est occupé justement de la mise en
onde. Il est plus qu'ingénieur du son, il est créateur sonore. Donc c'est lui qui vraiment a écrit une ambiance, l'atmosphère autour.
Avec qui vous avez l'habitude de travailler depuis des années?
Non, lors du dernier spectacle Askip qui se joue en collège, c'était notre créateur sonore. Donc c'est la deuxième fois qu'on travaille avec lui. Patrick Goujon.
Pour Askip aussi d'ailleurs.
Pour Askip, qui a écrit à l'intégralité d'Askip, là était là en support, en relecture des textes, en nous aidant pour la mise en scène et choisir aussi le choix de trouver des comédiens de la région en allant jusqu'à Marseille parce qu'il fallait beaucoup de voix différentes. Donc ce choix était important aussi.
Et c'était judicieux parce que figurez-vous que quand on connaît Nini Rhodes par exemple, Frédéric Favre, bon, Patrick Goujon, vous en avez parlé, Laurent Descartes aussi, ce sont des gens qui ont une image dans,
oui,
notre département et qui ont une activité culturelle. Et tout d'un coup, ben, ils se rajoutent un petit peu comme une arapède, si vous voyez ce que je veux dire,
oui,
dans un sur un rocher, et qui se collent à une dynamique et ça apporte aussi quelque chose. Et c'est une excellente chose. Donc, d'ailleurs, Annie Rhodes était hier, elle était présente à la présentation. Sandra.
Oui, ce que je voulais rajouter, qu'on n'a peut-être pas dit et qui n'est peut-être pas clair encore, c'est que ces fictions sonores-là seront à l'écoute dans les lieux dits.
Alors voilà, vraiment... ça c'est pratique. Comment ça va se passer, Philippe? Parce que vous allez être présent pendant 2 jours dans le cadre des correspondances. Je sais qu'il y a une application qui est en préparation, mais qui pour l'instant n'est pas opérationnelle. Mais on va pouvoir entendre toutes ces fictions sur les lieux, comme vous dites, Sandra. Donc on peut aller au musée de Quinçon, on peut aller à Gréoux-les-Bains ou à Manosque, sur les places de Manosque. Comment ça va se passer?
Alors, pendant les correspondances, ce sera des lieux qui seront dans le centre-ville, qu'on trouvera assez facilement. Place des Terreaux, place du Terreau, place de l'Hôtel de Ville. Donc là, par jour, on aura peut-être 3 stands où on va proposer les textes avec le matériel audio qu'on prêtera. Parce que comme vous disiez,
comment
François...
Comment on fait pour avoir ce matériau, ces matériels?
Il faudra se présenter, nous trouver dans les rues avec ces 3 stands. Ce sera très simple, peut-être à l'échange d'une pièce d'identité pour qu'on puisse récupérer le matériel. Mais ce sera évidemment gratuit et on aura un choix de 3 textes à proximité du stand duquel on se trouve. L'idée, c'était surtout d'avoir ces écoutes pérennes qui vont rester toute l'année, voire plus à Manosque et dans les environs.
Grâce à la fameuse application.
Grâce à la fameuse application qui s'appelle un serpent...
Le serpent d'étoiles.
Le serpent d'étoiles.
En fait, c'est une application qui va permettre aux gens de faire la balade, c'est-à-dire d'aller avec un plan, de trouver tous les lieux d'écriture, les 12 lieux, et ensuite d'écouter in situ les textes qui ont été créés. Donc il y a vraiment un côté immersif aussi du spectateur-auditeur qui va se mettre dans la situation des écrivains, c'est-à-dire où chacun de nous se trouvait pour écrire l'histoire, et l'écouter comme en réalité augmentée, parce que c'est la réalité en fait d'ailleurs.
Ouais, c'est
la réalité augmentée d'imaginaire, disons, mais il y a vraiment une balade physique dans les histoires écrites par les auteurs et revisitées par les comédiens.
Vaut mieux ça que chercher les Pokémon, hein, entre nous. Mais bon.
Il y a un côté ludique aussi, pareil.
Oui, mais en même temps, on est dans des œuvres artistiques, culturelles et qui valorisent aussi le territoire. Olivier Chaudançon, justement, dans cette affaire, Manosque joue un rôle essentiel. La ville de Manosque, le patrimoine manosquin, volxien également, Quinçon et puis Gréoux.
Oui, bien entendu. Puis le média de théâtre est particulièrement apte à, si j'ose dire sans mauvais jeu de mots, à s'emparer de ça. Enfin, c'est le projet de la compagnie dans les travaux que j'ai vus jusqu'à présent, que d'être dans la ville, de faire circuler les gens, de jouer avec ces lieux et formidablement. Donc oui, la ville est un acteur majeur, mais plus généralement dans le festival. Il suffit de regarder de quelle façon on a déployé les rencontres sur les places de Manosque, de quelle façon on souligne aussi certains endroits avec des écritoires. Enfin, la ville, au-delà de son aura littéraire qu'on a évoqué tout à l'heure, dans sa topographie même, est déterminante sur l'identité du festival.
Et elle est prête à ces 5 jours de fiesta littéraire et artistique qui démarrent aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandra Rinflet, et puis Philippe aussi, pour tout ce qui concerne cette activité, cette belle animation du Béga Théâtre que l'on suit depuis déjà... des années. Il y a une personnalité même plutôt qui sera là à Manosque juste avant l'inauguration, c'est Bernard Plossu, c'est le photographe très particulier et discret, qui est originaire de notre pays, et qui présentera et qui guidera le public, si le public le souhaite, dans son exposition qui se déroule actuellement à la Fondation Carzou, jusqu'à la fin de votre festival, Olivier. Bernard Plossu, que j'ai eu le plaisir de rencontrer cet été, et je vous propose tout simplement d'écouter l'interview de Bernard, qui est un... Il a fait un travail... remarquable dans les années 60 et les années 80, entre les deux frontières, entre le Mexique et les États-Unis. Et comment ne pas évoquer les projets complètement fous d'un espèce de bonhomme complètement fou et échevelé qui mène les États-Unis peut-être à leur perte, voire le monde, avec son histoire de mur entre justement les États-Unis et le Mexique. Donc une exposition magnifique où il y a des contrastes entre des Cadillacs d'un côté et puis des paysans avec des chapeaux de l'autre, tout en blanc, etc., etc. C'est à voir à la Fondation Carzou. Je vous propose d'écouter Bernard Plossu.
Bernard Plossu, qu'est-ce qui a guidé votre démarche entre les deux frontières, entre l'Amérique, les États-Unis donc, et le Mexique?
Les allers-retours, c'était l'histoire de ma jeunesse. J'étais basé au Mexique et je montais à San Francisco ou je montais en Arizona. Donc passer la frontière et en même temps chaque fois ne pas rater son tampon de visa pour être sûr de pouvoir re-rentrer ou ressortir. Et c'était assez difficile d'avoir des visas. Et donc, je me suis rendu compte que la frontière, même à mon petit niveau de touriste allant d'un pays à l'autre, était surveillée, était un lieu de passage pas simple. Et donc, je faisais des photos en habitant des deux côtés, puisque j'étais résident d'un côté et puis après résident de l'autre. Et je me suis dit que c'était intéressant, plutôt que de montrer que les photos américaines ou que les photos mexicaines, cette fois de montrer les deux en vis-à-vis. Dans l'image, on voit la différence de son, la différence d'architecture, la différence de tout.
On a les Chicanos d'un côté, les Mexicains, et puis on a les Yankees de l'autre, en quelque sorte.
En fait, ça s'est intensifié de plus en plus, la différence avec tous les illégaux. Quand je marchais dans le désert près de Yuma, il n'y avait aucun problème. Et maintenant, c'est impossible. Même déjà il y a 10 ans, c'était fini. Parce que il y a les patrouilles qui surveillent. Il y avait des drames aussi, les gens qui mouraient de soif dans le désert, un peu comme les gens qui meurent en mer maintenant en bateau. Mais tout ça, on n'allait pas jusqu'à imaginer qu'ils allaient construire un mur.
Donc justement, c'est la résonance avec l'heure actuelle. Votre exposition nous questionne aussi sur ce temps passé, oui. Et en même temps, cette dégradation totale des rapports entre ces deux pays.
Oui, en fait, les photos sont des années 60 aux années 80. Je sentais que ça changeait très vite. Il y a un très bon livre sur la frontière qui a été écrit par Patrick Bard, qui s'appelle La Frontière. Et lui aussi a vécu de ça. Et on s'attendait pas à ce que ça aille si loin, ça aille jusqu'à un mur. Il faut pas oublier que l'histoire d'un mur, c'est toujours quelque chose... Il y a une blague qui est très violente sur le mur à Jérusalem. C'est un type qui se retourne et qui dit à un autre qui est en train de prier devant le mur, mais tu parles à un mur. C'est terrible, parce que c'est très violent. Mais c'est vrai, un mur, c'est vraiment pas seulement un mur physique, mais c'est un mur moral.
On arrive aussi à abattre les murs, comme à Berlin, par exemple, et on va le souhaiter pour le mur de Trump aux États-Unis. Bernard Plossu, vous connaissez bien les nuits photographiques de Pierre Vert, vous exposez dans ce cadre à la Fondation Carzou. C'est particulier pour vous?
Ah oui, tout à fait. Ça fait des années que j'arrête pas de dire à tout le monde, venez, 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 aux rencontres de Pierre Vert, c'est très sympathique, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, c'est généreux, on voit plein de gens qu'on voit pas ailleurs. C'est gratuit, c'est d'enfer, c'est vraiment très 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 bien. Et je sais que tous les photographes qui ont été invités, avec qui on en parle, ont tous cette réaction en disant « venez, venez ». Le seul truc, c'est qu'il fait un peu chaud cette année. ça c'est la faute à la pollution. Non mais Pierre Vert, c'est un festival convivial, chaleureux. Et ce qui m'a toujours plu à Pierre Vert, c'est qu'un photographe soit célèbre ou qu'il soit tout jeune, il se rencontre. Et on devrait appeler Pierre Vert les rencontres de Pierre Vert. C'est une jolie suite des rencontres d'art. Hein, quelque part, la vie continue.
Et nous, c'est le plaisir aussi de rencontrer des photographes de votre talent, par exemple Bernard. Merci, à très bientôt.
Et dites aux jeunes de bien venir voir Pierre Vert. À bientôt.
Une interview réalisée pendant les nuits photographiques de Pierre Vert, Bernard Plossu. Et ça permet de faire le lien d'ailleurs entre ces deux festivals qui n'ont rien d'antinomique, si vous voyez ce que je veux dire, les correspondances de Manosque et les nuits photographiques de Pierre Vert. J'ai le plaisir d'accueillir Isbé, qui est la présidente de Empreinte 04. Bonjour Isbé.
Bonjour à tous.
Alors, vous nous rappelez très brièvement ce qu'est Empreinte 04?
Oui, alors Empreinte 04, c'est une association de graveurs située à Manosque et qui existe depuis presque 20 ans. Et alors le but de cette association, c'est de faire connaître la gravure, qui est un art assez méconnu finalement, soit par des expositions où il y a des visites guidées, pas mal de documentation, etc., ou par des animations dans les écoles, dans les médiathèques ou différents lieux qui en font la demande, et puis aussi par des stages, des animations et diverses formations. Voilà.
Depuis quand existe votre association ?
Depuis 2001, donc ça commence à compter. Et on est une vingtaine à peu près d'adhérents, enfin ça change un peu chaque année, mais environ, qui travaillent soit sur place dans notre atelier, soit chez eux, et puis qui participent aux différents projets.
Alors vous avez vécu un événement il n'y a pas si longtemps, c'est que vous avez déménagé.
Oui.
Et vous êtes installé maintenant en cœur de ville, dans la rue des Marchands, c'est pas très loin de l'hôtel de ville, à Manosque. Vous avez quitté la place d'Angoche, c'est le nom de cette place.
Oui.
Vous êtes bien où vous êtes situé ?
Oui, nous sommes très bien, parce que beaucoup plus visible et plus éclairé. Il y a beaucoup de passages dans cette rue des Marchands. Ce qui nous permet de faire un atelier galerie. Donc il y a une partie galerie où on expose, et puis une partie atelier donc où on peut travailler sur place avec la presse et tout le matériel qu'il faut.
Vous allez participer à ces correspondances de quelle manière ?
Alors nous participons, nous sommes dans le off dont on parlait tout à l'heure, avec des correspondances gravées. C'est-à-dire que nous avons formé des équipes de différents graveurs qui sont soit ici, soit plus loin, soit à l'étranger, puisqu'il y a des Danois, des Suédois, des Espagnols, des Suisses, des Belges, etc. Et chaque équipe doit échanger des correspondances, c'est-à-dire des gravures, c'est-à-dire commencer un peu sur le principe des cadavres exquis. On commence une planche, disons, l'envoie à une personne de l'équipe qui doit continuer l'histoire, donc qui va se faire petit à petit comme ça, par aller et retour. Tout ça passe par la poste, donc c'est vraiment des correspondances. Et à la fin, ça fait une planche complète que nous exposons donc pendant les 5 jours. Là,
c'est un travail collectif donc.
C'est un travail collectif à 2 ou 3, ça dépend un peu des équipes, oui.
Et vous êtes situé, on le rappelle, donc rue des Marchands.
Voilà, numéro 6.
Vous serez ouvert, c'est un endroit en plus qui a une histoire à Manosque, vous le savez.
Oui.
Et c'est aussi un endroit qui va être fréquenté par les graveurs et graveuses pendant ces quelques jours.
Oui, bien sûr, c'est ouvert en permanence. Il y a toujours des graveurs de l'association, plus des graveurs qui sont là de passage, qui ont participé aux correspondances. Et les visiteurs peuvent, en plus de voir l'expo, donc qui présente une cinquantaine à peu près de planches, ils peuvent s'initier à la gravure en faisant des petites cartes ou des petits essais de gravure pour voir un peu ce que c'est. Enfin, c'est un peu succinct, bien sûr, parce que ça ne dure pas très longtemps, mais ça donne une idée.
Et puis, ils peuvent voir aussi une magnifique presse que vous avez installée et qui traîne, entre guillemets, dans votre association depuis déjà pas mal d'années.
Depuis le début, oui, parce que la presse est indispensable pour pouvoir imprimer les épreuves.
C'est la presse d'un certain Luc Gerbier, c'est ça ?
Non, plus celle-là.
C'est une autre,
il l'a récupérée.
Donc, c'est une bonne chose, mais en tout cas, elle est opérationnelle, puisque
tout
c'est avec cette presse que vous travaillez régulièrement avec vos amis.
Oui, elle marche très bien, elle est révisée régulièrement. Nous avons quelques bricoleurs et techniciens dans l'équipe, donc c'est bien, ils entretiennent.
Il en faut.
Oui.
Merci Isbé, et puis saluez de ma part tous vos amis.
Merci.
Parce que vous faites un travail remarquable, avec beaucoup de finesse, beaucoup de talent, et c'est ouvert vers l'extérieur, donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup et qui me plaît. L'association Empreinte 04, 6 rue des Marchands, à Manosque, et pendant les correspondances, bien sûr.
Oui.
Il y a un autre endroit aussi à Manosque qui est particulier et qui est habité aussi par une espèce de lutin spécial, c'est un certain Manu, et c'est au goût du livre, et c'est notre ami James Fontaine que vous connaissez bien sur notre antenne, puisque c'est un animateur régulier de nos émissions et un collègue de travail. James, bonjour.
Bonjour François.
L'ami Manu, qui gère au goût du livre, c'est un passionné de livres. Et ça se voit pas trop d'ailleurs, quand on commence à parler avec lui, puis au fur et à mesure on découvre son talent et tout, toutes ses connaissances.
Ouais, surtout son sens de l'accueil, et puis il a des livres anciens vraiment magnifiques. Et puis il gère un lieu qui manquait vraiment à Manosque. Pendant les correspondances, il y a beaucoup de vie, puis après, ça retombe un peu, et puis bon, il faut passer l'hiver, quoi, quand on habite ici.
Ouais.
Et Manu a vraiment aussi fait un travail extraordinaire en faisant de la programmation d'artistes locaux, mais aussi d'artistes qui viennent d'ailleurs. Et donc, il nous a gentiment proposé de faire cette lecture que nous avons préparée pour lui. L'hiver dernier, il nous a demandé de la refaire pour les correspondances et nous sommes ravis parce que Olivier Chaudançon doit savoir que j'aime beaucoup les correspondances pour l'avoir souvent sollicité et toujours reçu des réponses très aimables, très accueillantes aussi, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était autour d'un projet socio-culturel avec des gens qui étaient des naufragés de la rue et
les
qui d'ailleurs... Je donne toujours des nouvelles sur les 10 qui ont participé, qui étaient dans un état très très de fatigue et de détresse. Il y en a 2 qui sont partis parce que c'était la fin de la vie, mais les autres ont toujours un toit, une identité, ils vont très bien. Voilà.
James, le spectacle que tu vas proposer demain soir à 19h au Goût du Livre, qui est à la fois une librairie, il y a des expos, il y a des soirées musicales, c'est d'après l'œuvre d'Henri Miller, Le Sourire au pied de l'échelle, une œuvre pas très très connue mais très spéciale d'Henri Miller.
Alors c'est assez spécial parce qu'au départ c'est une commande de Fernand Léger, le peintre, à Henri Miller en 1948 pour une exposition qu'il faisait autour du cirque. Donc vous savez que Fernand Léger était un peintre qui était un petit peu dans le début du cubisme et qui a proposé une vision du monde un peu différente pour l'époque. Il a fait tout un travail sur le cirque et il a demandé à Henri Miller d'écrire une histoire et il avait utilisé des bouts d'histoire pour illustrer certains tableaux dans l'exposition. Et puis, en fait, c'est une nouvelle, puisque Henri Miller a une très belle plume, et il a écrit quelque chose qui a détonné, parce qu'à l'époque, il était considéré, dans son époque, comme un écrivain pornographe, surtout aux États-Unis. Donc, il a été publié aux États-Unis à partir de 1969, symbolique, hein. Donc, c'est une œuvre qui détonne. C'est une nouvelle de 105 pages. Qui parle d'un clown qui s'appelle Auguste, bon ça c'est pas très original, qui travaille dans un grand cirque et qui à un moment donné, dans une rupture de vie, se voit mener une vie tout à fait loin des projecteurs, loin de la célébrité, loin du regard qu'il ne pouvait plus porter sur lui-même, jusqu'à ce que il y a des rebondissements, ça parle du talent, c'est un conte philosophique qui parle de comment on se projette dans l'art, qu'est-ce qu'on va faire exactement de sa vie, d'éviter les copier-coller, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'histoire qui est vraiment touchante et super bien écrite et j'ai la chance d'avoir Brandon Love Hall, c'est vraiment pas fait exprès, hein, c'est son vrai nom, qui est un accordéoniste de jazz, un New-Yorkais, qui m'accompagne régulièrement depuis 7 ans que je fais de la musique, et qui a accepté de venir apporter ses teintes, habiller musicalement ce texte pendant ma lecture, et avec quelques ponts musicaux.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'écriture d'Henri Miller, de cette nouvelle?
Oh là, Henri Miller, je l'ai découvert assez tard et ça a été une véritable claque sur la capacité de cet homme d'écrire des choses qu'il a vues, qu'il a vécues, sans rentrer dans l'obscénité. Pourtant, il y a des choses crues, mais on n'est pas dans le voyeurisme, enfin selon moi. Et c'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup la Beat Generation, qui a inspiré notamment des gens comme Kerouac et tout ça. Ce sont des gens qui ont vraiment été hippies avant l'heure. Ils n'avaient pas les cheveux longs, mais ils ont lancé vraiment une façon de vivre, un mode de pensée qui évidemment a dû heurter énormément l'Amérique à l'époque et longtemps après d'ailleurs encore. Hein.
C'est jeudi soir, c'est donc demain à 19h. Vous avez choisi l'heure aussi parce que c'est un créneau où il y a plus quelque chose sur scène mais pour les correspondances, et c'est avant une autre manifestation, hein, donc ça permet de,
de
faire une récréation un peu particulière.
C'est ce qui est magnifique dans cette grande fête où chacun a sa place, il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire les politiques devraient s'en inspirer de ce principe. Et effectivement, nous on a été sollicités par Manu qui ensuite a pris contact avec les correspondances, puis bon, je suis pas responsable du programme après.
Alors, il y a quand même un hic, c'est que c'est pas très très grand au goût du livre. Et donc,
sur réservation.
Il vaut mieux réserver. Donc, je vous donne le numéro de téléphone, c'est 04 86 56 65 09. 04 86 56 65 09. Vous ne pouvez pas rater la librairie très particulière au goût du livre. C'est à Manosque, c'est sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous regardez en face de vous, vous avez la scène principale des correspondances. Vous vous retournez et vous avez au goût du livre. C'est aussi simple que ça à Manosque. Merci James et puis bonne chance pour cette belle aventure.
Merci et j'en profite quand même pour dire, je ne vais pas faire encore de la pub, mais si, il y a déjà pas mal de réservations, donc peut-être si vous voulez y participer, appelez Manu, parce que bon, il y a au bas mot une petite quarantaine de places, donc on va être un peu serré, mais ça va être
c'est
bien.
Ça. Avec c'est serré et intime, donc ouais. C'est une bonne chose, et puis c'est aussi un endroit qui est à fréquenter. Il y a beaucoup de livres et des livres magnifiques qui sont à la disposition du public et évidemment qu'on peut acheter. On arrive à la fin de cette émission. Olivier Chaudançon, il y a toute une dynamique, là on le voit bien avec ces deux opérations, aussi bien Empreinte 04 que James et Au goût du livre à Manosque. Tout ça a été entraîné par les correspondances, on peut dire.
Oui, et ça s'est construit petit à petit, parce que c'est vrai que les correspondances gravées, ça fait un sacré moment qu'on les héberge. James, il l'a rappelé, on a travaillé ensemble il y a déjà pas mal d'années aussi. Alors oui, ça me fait plaisir si on peut s'autoriser à se dire que ça a créé un dynamisme particulier autour du livre. Peut-être que le fait que cette livre bénéficie de librairies plus chez Manu, dont on vient de parler, c'est pas complètement étranger au fait que les correspondances entretiennent un désir, une ébullition, les résidences d'auteurs à l'année, en effet, parce que c'est aussi la faiblesse d'un festival, ça dure 5 jours, et après, quoi d'autre? Et donc, on a à cœur, depuis longtemps, de faire vivre aussi une sorte de petite saison littéraire, en partie construite sur nos résidents, et puis l'association Éclat de Lire a maintenant, depuis quelques années, 10 ans, je crois, une résidence avec des illustratrices, des illustrateurs, enfin voilà, ça fait boule de neige.
Hier, d'ailleurs, c'est absolument. Camille Lauzon qui est en résidence et qu'on recevra certainement ici, une illustratrice de talent, hein, franchement, et puis qui a vraiment un bon contact avec les personnes. Le lancement de sa résidence, c'était hier au Centre Giono. C'est aussi un de vos partenaires essentiels, puisque vous êtes hébergé au Centre Giono, et là, il y a aussi toute une dynamique, toute une énergie commune.
Oui, ça me rappelle que lorsqu'on a démarré les correspondances il y a 21 ans, donc c'était Manosque, ville du livre, qui était mis en avant par la municipalité. Ben voilà, je ne sais pas si c'est encore une façon de dire les choses, mais en tout cas, ça s'est réellement construit de cette façon-là.
Et puis on le verra bien avec l'exposition en préparation au MUCEM. On aura le plaisir de recevoir Emmanuel Lambert, qui est commissaire de cette exposition et qui a écrit, vous l'avez dit tout à l'heure, un Giono Furioso magnifique, magnifique d'admiration et d'amour pour Jean Giono, mais aussi très très bien écrit, très bien documenté évidemment. Et elle sera là avec Clémentine Mélois, qui elle avait écrit un 100 titres ébouriffant et qui nous avait beaucoup plu il y a quelques années, et bien sûr Jacques Ménil, président de l'association des Amis de Jean Giono. À partir de cet après-midi, vous êtes absolument pris, Olivier, par les correspondances. Vous serez sur le terrain?
Oui, non, je suis très pris et très facile à croiser. Je serai sur l'une des places de Manosque.
Très exactement, la place de l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Hein, avec tous vos amis, on va en profiter pour saluer Evelyne Pravidlo, Arnaud Catherine notamment, tous les gens, ou les gens de l'ombre aussi qui travaillent à sonoriser les spectacles, à mettre en place les fameux écritoires qui font la renommée de Manosque. Je pense aussi à Charles Berberian qui fait des affiches magnifiques et que j'aurai le plaisir de recevoir ici même. Donc toute une dynamique et j'allais le dire quasiment une équipe de copains.
Oui, on s'entend bien, c'est important pour travailler efficacement. Et puis on peut aussi remercier toute une équipe de bénévoles qui nous aident à gérer tous ces sites, et des bénévoles qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des fidèles, ils sont des bénévoles depuis des années, voilà, donc c'est pour ça que ça donne, et tant mieux si ça donne vraiment cette impression, cette idée d'équipe soudée.
Voilà. Avec aussi des soutiens institutionnels et financiers importants, aussi bien publics que privés. On va pas tous les citer. Ils sont cités dans votre fascicule et dans la présentation des correspondances. Les correspondances de Manosque, ça ouvre tout à l'heure, 17h, sur la place de l'Hôtel de Ville de Manosque, jusqu'à dimanche 29. Profitez-en. Merci à tous mes invités d'avoir participé à cette première émission. On se retrouve demain pour une seconde émission. Et demain, j'aurai le plaisir de recevoir René Frény, Arnaud Catherine, qui nous parleront tous deux de leur dernier roman. Et puis, j'aurai le plaisir aussi de recevoir Théo Acola, qui accompagne ce soir même Jacques Bonafé dans la lecture du Dracula de Bram Stoker. Nous recevrons aussi l'association que préside l'académicienne Danielle Salnave, mais elle ne sera pas là. C'est Silence, on lit. Olivier Delahaye, qui est vice-président de l'association, sera présent. Ce sera demain. Merci aussi Chloé pour la régie. À demain.
Merci François, merci à vos invités et bonne journée sur Fréquence Mistral.